Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue, si vous nous rejoignez dans RFI Soir, c'est le rendez-vous annuel de la bande dessinée, le Festival International d'Angoulême. Il a commencé ce matin, l'occasion de revenir sur l'une des grandes tendances qui traverse aujourd'hui la bande dessinée contemporaine, le placement du dessin au service du reportage, ou peut-être est-ce l'inverse, le placement du reportage au service du dessin. Une certitude, l'actualité se met aujourd'hui en bulle, comme on dit. Alors il est vrai que le personnage du reporter est central dans l'histoire de la bande dessinée depuis longtemps. Comment oublier Tintin, par exemple, une des figures fondatrices du genre. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que depuis quelques années, le reportage n'est plus seulement la toile de fond d'un album, son décor, il est devenu une pratique à part entière de la bande dessinée, et cela plaît manifestement aux journalistes, aux dessinateurs et aux lecteurs. Quelques récents exemples pour vous qui nous écoutez. Il y a eu chez Casterman les nouvelles de la jungle de Calais, de la dessinatrice Lisa Mandel et de la sociologue Yasmine Boaga, le récit des derniers mois de la jungle de Calais. Et puis il y a eu aussi chez Cambourakis, par exemple, un autre album, Kobane Calling, l'aventure de son auteur, l'italien Zero Calcare, pardon si je ne prononce pas bien, chez les Peshmerga du Kurdistan syrien. Alors BD, nouveau journalisme, c'est notre débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. David Sarbenet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de la revue Dessinée et certains de nos fidèles auditeurs vous reconnaîtront peut-être puisque vous êtes passé par Radio France Internationale. En face de vous, Benoît Colomba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste d'investigation à Radio France, co-auteur d'une bande dessinée, Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la 5e République. Une bande dessinée, un album qui est paru il y a un peu plus d'un an, je crois que c'était novembre 2015, chez Futuropolis. Alors, David Sarbenet, partons de la revue Dessinée, que vous avez donc cofondée, une revue qui publie des enquêtes, dites-vous, des reportages, des documentaires strictement en bande dessinée. On en est au numéro 15, ça fait un peu plus de 3 ans. Alors, je regardais le sommaire de l'un des derniers numéros pour donner une idée à nos auditeurs, les objets connectés, l'armée française et le chômage, la grande illusion. Alors, comment elle a débuté cette aventure de la revue Dessinée?
Alors, elle a débuté sur une envie et une frustration. L'envie, c'était un groupe d'auteurs de bande dessinée, dessinateurs, scénaristes, qui avaient envie de recréer un espace éditorial un peu particulier, qui est celui d'une revue. Donc on est plus proche d'une démarche qui est celle de la presse, de l'information, puisque depuis le début des années 90, avec la fin d'À suivre, qui était en France une des dernières grandes revues initiées par l'éditeur Casterman, qui donnait un espace, une place à ces auteurs qui sortent de leurs ateliers pour aller se confronter un peu en réel, il n'existait plus rien en fait en France de ce type d'espace. Et donc là, il y a toute une génération dont on va sûrement reparler, de jeunes dessinateurs qui avaient envie, donc qui sont des dessinateurs du réel, comme moi je préfère les appeler, alors qu'ils font effectivement du reportage, de l'enquête, du documentaire, différents styles, mais qui avaient envie de se prendre en main et d'avoir un peu un espace éditorial qui leur appartiendrait. Et puis, il y a une frustration aussi, c'est que la bande dessinée, c'est un milieu qui est assez précaire, et il y avait aussi le désir d'ouvrir une sorte de deuxième guichet économique, en tout cas, pour dire aux auteurs...
Oui,
bah,
parce
voilà,
que j'imagine que beaucoup d'entre... Enfin, des personnes qui travaillent pour vous dans la revue Dessinée, journalistes comme auteurs, ne font pas que ça dans la vie et cumulent plusieurs emplois, évidemment.
Et alors, dans la bande dessinée, ceux qui ne font que ça, et même des gens qui sont très talentueux, ont du mal à en vivre. Il y a beaucoup de gens qui sont au RSA, alors que ce sont des auteurs reconnus et qui publient bien. Voilà. Et donc là, il y avait aussi une espèce de pari un peu économique de dire, essayons d'offrir aux dessinateurs un espace dans lequel ils pourraient travailler dans de bonnes conditions économiques.
Et ça marche plutôt bien, on parlera sans doute des chiffres un peu plus tard dans l'émission. Benoît Colomba, alors vous avez donc co-réalisé, je ne sais pas si on dit exactement comme ça, avec Étienne Davodeau, Cher pays de notre enfance. Comment vous en êtes arrivé à faire une BD, puisque vous, c'est l'investigation, mais plutôt radio, vous avez publié des livres aussi. Est-ce qu'il y a une forme de frustration, comme on vient de dire, envie de combler un vide, vous renouveler?
D'abord, ça a été une rencontre par le biais justement de la revue Dessinée, la rencontre avec Étienne Davodeau, qui lui a été un des premiers à explorer cette veine justement de la bande dessinée documentaire. Moi, effectivement, à Radio France et à France Inter, je fais ce qu'on appelle du journalisme d'investigation. Et c'est vrai que là, c'était assez intéressant, passionnant pour moi de plonger dans cette aventure, parce que du journalisme en bande dessinée, c'est à la fois pareil et différent. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur la violence politique dans les années 70, et là le projet c'était de raconter cette histoire secrète, cachée, en tout cas qui n'est pas dans nos livres d'histoire, de la raconter en bande dessinée. Du coup, c'était très stimulant intellectuellement d'essayer d'imaginer comment on allait pouvoir raconter cette histoire.
Sans doute difficile aussi, parce que j'imagine que troquer un micro et un bloc de notes pour se transposer dans un espace qu'on ne connaît pas très bien, on ne raconte pas de la même manière en bande dessinée, ça doit être un peu déstabilisant.
On ne raconte pas de la même manière. D'un autre côté, ça ouvre des portes aussi, en l'occurrence. Dès le début, ce qui m'a intéressé dans ce projet avec Étienne Davodeau, c'était d'aller à la rencontre des témoins. Bon, ben, ça, c'est du journalisme classique, on va dire, mais de raconter aussi un peu les coulisses, l'envers du décor.
On le voit très bien dans le début de la bande dessinée,
voilà,
on vous voit tous les deux.
On ne peut pas faire dans un journalisme classique où parfois où on peut trouver ça sur Internet, ou par exemple Mediapart fait ça avec ce qu'ils appellent la boîte noire. Mais là, d'intégrer finalement que les coulisses, que le travail journalistique soit une partie intégrante du récit. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne fait pas au quotidien dans son travail de journaliste.
Alors David Servenay, vous êtes, d'après le site internet de la revue Dessinée, vous gérez aussi justement les journalistes qui arrivent, qui j'imagine vous sollicitent, avec qui vous travaillez quand ils sont sur ces projets. Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté pour transposer leur métier classique justement dans une collaboration avec un dessinateur ?
Ils sont bavards, ils sont trop bavards, les journalistes. Ça, c'est
moi aussi.
Alors c'est un aspect qui est assez intéressant, parce que pour ceux qui n'ont jamais fait de bande dessinée, en général le réflexe c'est de vouloir fournir beaucoup de matière, et beaucoup de matière en texte, puisque la plupart du temps on s'exprime quand même par ce biais-là. Même quand on fait de la radio, on écrit. Bon, et en réalité la bande dessinée c'est un art qui est très économe sur le texte, parce que justement il y a la possibilité de raconter les choses par le graphisme, par le dessin, et d'une manière où la subjectivité est assumée. Et ça, c'est un élément qui est très important. Quand vous regardez un dessin, vous ne vous posez pas la question au fond de sa réalité, parce que vous savez que c'est une expression subjective d'un auteur, d'accord ? Quand vous voyez une photo ou une vidéo, vous pouvez vous dire « ah bah oui, c'est la réalité », mais en fait, c'est une réalité quand même qui est un peu tronquée. On dit toujours, Godard disait, l'image ment, c'est-à-dire que quand on fait un cadre, par exemple avec une image, bah on sait qu'il y a aussi le hors-champ, et le hors-champ, on le voit pas. Alors que là, dans la bande dessinée, on peut assumer cette subjectivité et en même temps raconter les choses en respectant les codes de l'information, c'est-à-dire une information qui est validée. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est l'alliage entre la subjectivité, voilà, de l'artiste et la rigueur qu'impose la recherche de l'information. Et ça, on le voit très bien d'ailleurs dans Cher pays de notre enfance, qu'on fait Benoît et Étienne. C'est-à-dire que c'est une manière de se montrer. Donc, je montre les pieds dans la boue, comme on dit, hein, en train d'arpenter, d'aller interroger les gens, etc. Je peux reconstituer des événements duquel je sais tout parce que j'ai fait mon enquête, que je sais exactement ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de photos, il n'y a pas de vidéos de ces événements, et par la bande dessinée, je vais pouvoir représenter ça. Et ça, du coup, ça donne une richesse assez extraordinaire pour raconter des histoires, des enquêtes, des choses complexes, en fait.
Alors là, on termine sur la richesse, mais Benoît Colomba, est-ce que vous avez eu un petit peu ces difficultés dont il parlait, être trop bavard
Oui, c'est-à-dire que moi, je voulais caser le maximum d'informations, et donc
est déjà dense, la bande dessinée,
c'est déjà dense,
et elle est
effectivement,
épaisse.
C'est une bande dessinée avec beaucoup de textes, et puis Étienne, Davodeau, essayer quand même de rester l'épaule contre la porte en disant mais attends, on peut pas trop mettre d'informations, il faut quand même que ce récit soit.
Donc ça c'est le dessinateur en fait.
Bien évidemment. Et en fait il y avait un équilibre, il y avait un dialogue constant en fait entre nous là-dessus. Mais finalement chacun était dans son rôle. C'est sûr que moi j'arrivais avec mes contacts, mon carnet d'adresses, Étienne qui participait aussi aux interviews, mettait son petit grain de sel finalement, avait son regard décalé. Finalement on était très complémentaires et lui évidemment il avait une vision qui n'était pas uniquement journalistique. Comment mettre en image, comment raconter ce récit ?
Et est-ce qu'il y a une forme de timidité de certains journalistes, David Servenay, qui vous contactent, ont envie, connaissent un dessinateur et puis se disent en fait ah, je suis pas capable, et auquel cas quels arguments vous utilisez ? J'ai lu qu'il y avait aussi l'idée de la vulgarisation qui était peut-être plus facile avec la bande dessinée.
Oui, c'est-à-dire que la bande dessinée offre de par ses capacités, effectivement, c'est un outil pédagogique extraordinaire pour raconter des histoires et pour les raconter simplement. Nous on a publié un des sujets sur lequel on est le plus fier et le plus satisfait, c'est une longue enquête sur les emprunts toxiques, par exemple.
Vous avez eu un prix.
On a eu le prix du meilleur article économique de l'année grâce à ce sujet, devant des dizaines de confrères extrêmement sérieux venant des plus grands médias. Et bon, ça aussi, on est très fiers de ça. Mais pourquoi on en est fiers ? Parce qu'on a réussi, en quelques dizaines de pages, à expliquer une histoire qui est quand même assez complexe et aride à comprendre, l'histoire des emprunts toxiques, en la racontant par le biais d'un petit village qui s'appelle Unieux dans la Haute-Loire. Et en fait, si vous voulez, c'est l'association de ce qu'on appelle de la séquence du case à case, donc ce qu'on peut voir dans Tintin, d'accord, où on vous raconte une histoire, des gens qui sont en train de faire des choses, ça associé à toute la dimension symbolique, abstraite, voire poétique que peut avoir la bande dessinée. Et grâce à ça, vous arrivez à élargir la focale tout d'un coup et à prendre conscience que des mécanismes qui sont très complexes à expliquer par nos médias traditionnels, bah là, tout d'un coup, deviennent extrêmement limpides. Et tous les gens qui ont lu cette bande dessinée, même si ce sont des nuls en économie, à la fin, ils nous disent, merci parce que j'ai compris enfin ce que sont les empreintes occultes.
Alors, il y a le côté difficile à comprendre et puis il y a aussi le côté difficile à mettre en image. Alors, j'imagine que l'investigation là-dessus, Benoît Colomba, c'est votre spécialité. C'est très, très compliqué d'expliquer une enquête qui a plein de ramifications et tout ça. Est-ce que du coup, ça vous a aussi intéressé dans le projet?
Oui, complètement. Par exemple, une séquence des archives. Comment est-ce qu'on peut donner à voir des archives? Il y a tout un passage dans le livre où en fait, on montre la difficulté de consulter certaines archives qui n'ont pas été complètement déclassifiées. On peut quand même en consulter certaines. Et donc, on se retrouve face à une masse de documents. Donc, on montre ça avec, à l'intérieur de ces documents, des passages assez, assez savoureux. Donc, au départ, on se dit, finalement, c'est pas très excitant de montrer des archives. Et en fait, on en fait un passage qui est assez dynamique dans le livre. Ce que disait David est exact. Moi, je trouve la force de la bande dessinée, c'est une faculté de montrer, de décrypter des sujets complexes. Du clair-obscur, ça peut être des sujets économiques et financiers, et ça je trouve assez passionnant. Ou par exemple, effectivement, pour notre histoire, des domaines, des zones grises de l'histoire, et ça montre aussi justement la complexité, les mensonges, les personnes les témoins qui ne veulent pas tout dire, c'est des choses qu'on peut pas forcément
Donc alors, est-ce que vous iriez jusqu'à dire
une enquête radio ou un article en presse écrite? En bande dessinée, on peut le montrer. On peut montrer, par exemple, du silence.
On peut montrer mieux. Vous iriez jusqu'à dire ça ou pas?
Oui, je pense que pour certains sujets, on peut montrer mieux. En plus, c'est vrai que on l'a pas abordé, mais les conditions de fabrication, finalement, pour parler ainsi, sont tout à fait différentes. C'est-à-dire que là, on a eu un luxe incroyable quand même avec Étienne Davodo. On a eu 2 ans pour faire notre travail. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans l'économie médiatique aujourd'hui.
Le temps, c'est un facteur qui est essentiel. Aujourd'hui, on le voit bien avec Internet, le numérique, les choses s'accélèrent, le rythme de l'actualité s'accélère et on comprend de moins en moins en fait cette actualité. Et avec la bande dessinée, il faut savoir qu'un auteur, en moyenne, il fait à peu près 10 pages par mois. Donc quand vous faites un récit d'une centaine de pages, ça vous prend à peu près une année de travail. Et ce temps-là qui se dilate, ça permet, dans la recherche, dans les échanges avec son co-auteur, ça permet de redonner du sens à des histoires. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire modestement à la revue dessinée, c'est-à-dire de plonger dans des thématiques qui sont aujourd'hui très importantes, l'écologie, l'économie, les affaires aussi, et d'essayer de redonner du sens par le temps justement et par cette capacité qu'a la bande dessinée d'offrir une narration à plusieurs niveaux et qui va faire que même des enfants, à la limite, peuvent comprendre des choses, c'est-à-dire que même si on ne sait pas lire, on sait décrypter un dessin.
Donc voilà. C'est aussi une forme de réponse un peu à la crise de la presse dont on parle.
On touche un public différent. Aussi, moi, ce que je trouvais aussi très intéressant, c'est par exemple là, l'histoire qu'on raconte dans Cher pays de notre enfance, c'est une histoire que, en gros, les moins de 40 ans ne connaissent absolument pas. Et du coup, de pouvoir raconter justement cette histoire en clair-obscur, oui, mais une dimension citoyenne aussi, parce que voilà, des gens qui disent, mais on ne connaissait absolument pas cette histoire. Moi, j'avais déjà écrit, j'avais fait des livres, mais c'est pas du tout le même public. Et donc, mais tout en continuant à s'adresser à l'intelligence des gens, c'est ça qui est formidable avec la bande dessinée, c'est qu'après, la bande dessinée, c'est comme tout, il y a des bonnes ou des mauvaises bandes dessinées, mais après, c'est un outil extraordinaire qu'on peut utiliser de mille manières, et c'est vrai que là, c'est Étienne Davodo qui raconte cette anecdote, c'est vrai que Parfois, on a eu accès à certains témoins. On a eu des anciens policiers, des anciens gangsters, des anciennes barbouzes. Et c'est vrai que quand on se présentait en disant que c'était de la bande dessinée, finalement, il y a des personnes qui ont accepté de nous voir,
parce que
qui n'auraient certainement pas accepté.
Alors, il y a aussi,
c'est un magistrat, je crois,
au début, qui dit quoi, un documentaire en bande dessinée, mais c'est quand même un peu étrange. Il y a aussi eu ça comme petite
réaction. Oui, c'est ça. Voilà. D'un air un peu consterné.
Voilà.
Mais clairement, en l'occurrence, c'était un ancien membre du gang des Lyonnais qui n'accepte pas de rencontrer des journalistes, mais par contre, qui acceptait parce que c'était un dessin de nous voir.
Est-ce que, David Servenay, la bande dessinée se prête à tous les formats journalistiques ? Alors, c'est du jargon un peu technique pour les gens qui nous écoutent, mais en gros, est-ce qu'on peut faire donc des enquêtes ? On a vu que oui. Du reportage, il y a eu Joey Sacco, on le sait. Du portrait, de l'interview, est-ce qu'on pourrait imaginer aussi ça en bande dessinée ?
Alors, moi, je trouve, le portrait, j'y crois pas trop. Nous, dans la revue dessinée, dès le début, on a décidé plutôt de ne pas en faire. Il peut y avoir parfois des exceptions. Moi, je pense que ça se prête particulièrement bien au reportage et à l'enquête. Alors, c'est peut-être parce que ce sont mes tropismes personnels là-dessus. Mais encore une fois, parce que il y a une dimension pédagogique dans la bande dessinée qui est vraiment très forte. Et aujourd'hui, encore une fois, on a besoin d'avoir des grilles de lecture en quelque sorte sur des phénomènes qui sont assez complexes. Voilà. Et à ce titre, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Mais vous avez aussi le témoignage personnel. Là, par exemple, Guy Delisle vient de sortir un récit, un album qui raconte une prise d'otage. Voilà,
ouais.
S'enfuir, qui est le récit d'un otage et de sa détention. Et en fait, à l'image, en quelque sorte, il ne se passe rien puisque tout le récit.
C'est un sacré défi. Puisqu'il est toujours dans le même endroit.
C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au silence. Et là, le temps est une donnée fondamentale du livre.
Voilà. Et en même temps, son récit est formidable. Enfin, moi, j'ai été captivé. Ça fait, plus de 400 pages. Mais c'est extrêmement dense et on suit parfaitement ça. Donc, voilà. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette articulation entre le monde de l'information et le monde de la bande dessinée. On en est un peu qu'aux prémices. Ça fait, une petite vingtaine d'années qu'on a commencé à développer ce genre, que les auteurs s'y sont mis. Et à mon avis, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Benoît Colomba, est-ce que vous avez d'autres projets sur le feu ? Est-ce que ça vous a donné envie de continuer ? Ou vous voudriez tenter autre chose ?
Pour l'instant, j'ai pas de projet concret, mais oui, clairement, ça m'a donné envie et oui, j'ai plein d'idées dans ma tête, oui.
Et ce serait aussi de l'investigation ou vous aimeriez peut-être tenter du reportage ?
Sur l'investigation, tout à fait, sur l'investigation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une période de basculement où les sujets, notamment économiques et financiers, sont fondamentaux. Et je pense qu'il y a un grand besoin de la part des gens, des citoyens, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et il y a beaucoup de sujets qui ont été confisqués d'une certaine façon, qui sont assez peu mis en avant dans certains médias. C'est aussi dû à l'évolution des médias, hein, aussi de la composition capitalistique des médias. On voit bien qu'on vit une crise sans précédent. Et voilà, donc oui,
donc
notamment...
Donc ces sujets-là, peut-être difficiles à traiter.
Sur ces sujets-là, difficiles à traiter dans des formats très courts, oui, ça m'intéresserait de les traiter en bande dessinée.
Alors, il ne reste plus qu'une minute, mais je voulais quand même vous poser la question. Vous l'avez abordé au tout début de l'émission. Est-ce que ça marche, David Servenay ? Est-ce que vous savez qui vous lit, qui aime vous lire ?
Alors, on ne sait pas précisément qui on lit si on parle en termes d'études marketing, etc. On n'en fait jamais, on n'a pas les moyens d'en faire. On tire chaque numéro à 20 000 exemplaires, on a pas loin des 7 000 abonnés aujourd'hui, un tiers à peu près sont des Parisiens, deux tiers des provinciaux, et on a aussi des lecteurs dans tout le monde francophone, en Suisse, au Canada, en Belgique.
Il y a eu des bandes dessinées sur Dombey récemment qui sont sorties.
Absolument, voilà, donc... ça marche. En même temps, ça ne peut que se développer, j'allais vous dire, parce que quand on regarde les chiffres de l'édition, les plus gros tirages aujourd'hui en France dans l'édition Tous Azimuts sont des tirages de bandes dessinées. Quand une bande dessinée marche bien, elle marche très bien. Vous l'avez pas dit, mais Cher pays de notre enfance approche les 100 000 exemplaires, ce qui est
colossal.
Assez colossal oui, pour un livre aujourd'hui. Et surtout sur ce genre de sujets qui sont des sujets sérieux et lourds.
Eh ben, on vous souhaite un futur succès à la hauteur de ce premier tirage. Merci beaucoup à vous de Benoît Colomba, donc journaliste d'investigation à Radio France. Je rappelle le titre de votre BD qui cartonne. Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la 5e République, qui est paru chez Futuropolis. Merci également à vous, David Servenay, cofondateur de la revue dessinée, numéro 15, 16 en préparation.
Pour mars.
Voilà, pour le mois de mars, ce sera dans quelques semaines. Merci à Florence Ponce, à Laurent Philippot. Demain, c'est François Bernard que vous retrouvez pour le débat du vendredi. À bientôt.